Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour le Beaujolais, bonjour le Val de Saône, ravi de vous retrouver pour passer une petite heure en votre compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 8 novembre 2022, il fait plutôt beau dans le Beaujolais. Les températures montent à 18 degrés cet après-midi, de Belleville à Larbrel et jusqu'à Meximieux. Et dans notre émission, eh bien, on va retrouver le coach pour ses conseils et ses dilemmes qu'il aime à nous présenter. Et on terminera comme chaque mardi en parlant un peu littérature avec notre libraire Bertrand Lamure. Avant tout ça, eh bien, on va s'intéresser à nos invités du jour. On va parler de la semaine européenne de réduction des déchets, c'est du 19 au 27 novembre et c'est organisé par l'Agence de la transition écologique qui invite chacun à s'emparer de cet événement. Et la communauté de communes Beaujolais Pierre Doré semble s'en être pas trop mal emparée. Ils organisent avec l'aide de nombreuses associations des animations, des ateliers, des conférences autour de la réduction des déchets tout au long de cette semaine. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Qu'est-ce qui va se passer? On en parle tout de suite avec monsieur René Blanchet, premier élu de la communauté de communes Beaujolais Pierre Doré, et madame Cécile Brulin de l'association Agir à Valdouin. Avant ça, on écoute les Foster the People pour commencer l'émission en musique. Voici leur titre Waste. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous. C'était Waste, Foster the People sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, avec moi en studio aujourd'hui, Madame Cécile Bruin de l'association Agir à Val-d'Ouin.
Bonjour.
Et Monsieur René Blanchet, vous êtes première élue de la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré.
Commune de Pommiers uniquement.
Commune de Pommiers uniquement, très bien.
Oui, faisant partie du groupe des élus de la communauté de communes.
Ok. Et vous venez nous parler aujourd'hui de la semaine européenne de réduction des déchets. Ça a lieu du 19 au 26 novembre. Et c'est organisé par l'Agence de la transition écologique.
Oui.
Mais chacun s'en empare à sa manière, c'est ça ?
Exactement. Et du coup, nous, localement, au niveau de la communauté de communes, on a choisi de faire une organisation collégiale avec des élus, des associations, des acteurs économiques aussi. Mmh. Et du coup, on propose dans chaque village des actions pendant ouais. cette semaine. Et on termine par une fête de clôture, une fête des déchets le 26 novembre à la communauté de communes à Anse.
Ouais. C'est pas forcément très glamour comme thème, la réduction des déchets. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de venir participer et de s'y intéresser ?
Alors tout d'abord, il faut déjà resituer un petit peu les volumes de déchets qu'on est capable effectivement de produire.
Ouais.
En gros, par habitant, on produit 5 tonnes de déchets par an. Donc c'est énorme.
Ouais.
Alors ensuite, tout déchet confondu. Ensuite,
si on réduit... Pour essayer de se donner une idée, 5 tonnes de déchets, ça fait quoi ? Ça fait une grosse voiture déjà ?
Ah, beaucoup plus, si vous voulez, 5 tonnes. C'est 5, on peut dire c'est 5 mètres cubes. C'est,
ouais.
Vous voyez, donc c'est peut-être le volume d'une pièce, si vous voulez, donc quelque part. Et derrière, malgré tout, ces 5 tonnes, c'est vrai qu'il y a des gros déchets, si vous voulez, du bâtiment, etc. Mm. Et ensuite, on va revenir, si vous voulez, donc à l'habitant citoyen normal, on va dire, quelque part. Eh bien, il produit quand même, si vous voulez, 500 kilos de déchets. Et puis lorsque vous mettez vos déchets dans votre petite poubelle, alors aujourd'hui on a plusieurs poubelles, mais petite poubelle, on va dire marron, la poubelle qu'on appelle effectivement des ménages ou de déchets courants,
ouais.
eh bien on produit quand même effectivement, si vous voulez, 200 kilos de déchets. Ce sont en quelque sorte, si vous voulez, des chiffres qui sont à la fois à l'échelle nationale, mais également aussi à l'échelle effectivement de notre région. Donc, bien sûr, réduire ces déchets. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ces déchets n'ont pas de seconde vie. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il faut penser à ce que tout ce qu'on produit comme déchets devienne plus forcément des déchets, mais que ces produits aient une seconde vie.
Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui finit pas dans une poubelle de tri, eh ben, c'est du déchet qui n'a pas de seconde vie. La poubelle jaune, a priori, c'est recyclé ?
Tout à fait.
Si déjà on fait le tri, c'est
alors,
une bonne action.
Ben, c'est une bonne idée, mais pardon, mais c'est aussi,
c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que il faudrait pas qu'on en déduise que le tri c'est une solution. En fait, la solution c'est vraiment de réduire quoi.
Ouais.
Donc à la base, si on arrive à réduire nos déchets, par rapport au tri, bien sûr que derrière c'est valorisé, donc ça permet d'économiser de la matière première, permet d'économiser de l'énergie, mais il y a que le verre hein, qui est à 100% recyclable et plusieurs fois. Il y a quand même une limite au recyclage, notamment pour le plastique, ça peut être 2-3 fois. Mmh. Et à chaque fois, on est obligé de réintroduire de la matière première brute. Donc c'est pas, c'est bien, mais
ouais.
ça suffit pas. Par contre, essayer de réduire directement nos déchets, les réparer aussi. Mmh. On va avoir plusieurs propositions pour des répare-cafés sur le territoire et notamment aussi le 26. Ça peut être des idées aussi.
Des manières de réduire ces déchets.
Tout à fait.
Et donc, il y a plusieurs échelles. Il y a sensibiliser au niveau individuel, chacun réduire ses déchets. Et je sais que dans cette semaine, du coup, il y a les communes qui sont investies. Et au niveau communal et institutionnel, est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions pour réduire les déchets ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord que aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans la gestion, on va dire, des déchets. Ça, c'est en fait, finalement, les collectivités ont l'obligation, si vous voulez, donc d'assurer, si vous voulez, donc la gestion des déchets. Mais aujourd'hui, il faut qu'on passe à une autre étape, qui est celle de ne pas être uniquement à la gestion de ces déchets, même si effectivement on revalorise une partie. Aujourd'hui, il faut être complètement à la réduction, parce que derrière, ça induit effectivement. Prenez par exemple le fait que du transport, si vous voulez. Donc on consomme de l'énergie pour des déchets parfois que l'on met directement, si vous voulez, dans des décharges. Donc il faut absolument arrêter ce principe, c'est-à-dire il faut être dans une autre démarche, et une autre démarche qui démarre à partir du, on va dire, du citoyen. C'est-à-dire que chaque citoyen doit se poser la question aujourd'hui, lorsque j'ai un déchet, d'où il vient, est-ce que j'aurais pu l'éviter quelque part, ou est-ce qu'il peut avoir une autre destination et ne plus être en titre de consommateur, simplement, où on a vaguement, si vous voulez, donc une poubelle, on va tout mettre dedans, on va pas savoir où est-ce que ça va, mais on pourrait considérer qu'on s'est débarrassé. Donc la collectivité, ouais, aujourd'hui ne veut plus être dans cette démarche, même si elle a une obligation de traitement et de traitement des déchets et de ramasser effectivement ces déchets pour des notions, on va dire, de salubrité, etc. Mais c'est pour ça que cette semaine européenne de réduction des déchets doit mettre en évidence un certain nombre d'actions qui peuvent être simples, mais qui sont à l'échelle, effectivement, de chaque citoyen dans sa collectivité. C'est pour ça qu'un certain nombre d'exemples dans la semaine vont être développés.
Il y a effectivement un grand programme pour toute cette semaine. Donc je rappelle, c'est du 19 au 26 novembre. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde ?
Alors, ça s'adresse à tout le monde, en effet, hein, puisque c'est ce qu'on vient de dire. Hein, des déchets, on en produit tous. Hein.
Ouais.
Et on a, par exemple, essayé de toucher tous les domaines. Notamment, on va avoir des sensibilisations auprès des écoles.
Ouais.
On va avoir des pesées des déchets de cantine. Donc ça va être pendant toute la semaine, là, du 21 au 25. Et puis, on analysera un petit peu ces résultats le 26, tous ensemble. Pour trouver des solutions, en fait, pour avoir des solutions anti-gaspi, pour voir un petit peu aussi si on peut composter, si on peut travailler avec les prestataires pour réfléchir aux quantités. Alors, il y a des choses qui sont déjà faites, hein, sur les communes, hein, bien sûr, mais là, c'est pour échanger, en fait, et pour donner des idées. On aura aussi des actions au niveau individuel pour fabriquer, par exemple, des produits d'entretien, des produits ménagers, pour réparer, on en a parlé, pour lancer des composteurs collectifs, pour essayer de réduire aussi les déchets numériques, parce que voilà, ça fait partie aussi.
Ça, on n'y pense pas toujours, parce que quand on parle déchets, évidemment, on pense aux poubelles, au tri sélectif, etc. Les déchets numériques, qu'est-ce que c'est ?
Ben, ça va être aussi, par exemple, pour rajeunir un petit peu son ordinateur, pour essayer de le prolonger, pour essayer de réduire les quantités d'énergie que l'on utilise, en fait, lorsqu'on utilise le numérique. Ouais. Ça va être un peu tout ça, tout ce qui est caché, en fait.
D'accord, tout ce qu'on ne voit pas au quotidien. Vous avez parlé de la fameuse pesée des déchets dans les écoles. Ça se passe comment ? L'idée, c'est de se rendre compte de ce qui est jeté, de ce qui est gaspillé, d'expliquer aux élèves.
Alors, le gaspillage alimentaire, ouais, c'est quand même une notion importante.
Oui, globalement, c'est vrai qu'il y a déjà eu un certain nombre, on va dire, de sensibilisation auprès des personnes qui gèrent effectivement aujourd'hui les cantines, mais c'est derrière adapté le fait d'une consommation, on va dire, raisonnable, à savoir qu'on peut être effectivement sur des quantités qui, en fonction des produits, peuvent être limitées, voire cela ne veut pas dire effectivement qu'on va se mettre à consommer qu'une typologie de produits, mais même si on n'aime pas ce produit dans une cantine, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, si vous voulez, de faire admettre tous les goûts auprès, disons, des élèves, mais malgré malgré tout, donc il y aura toujours à un moment donné, si vous voulez, donc un peu de gaspillage. Mais ouais, c'est de se rendre compte que quelque part, si je prends du pain, même si je prends un verre d'eau, quelque part, ce sont à la fois des aliments ou c'est de, même si c'est de l'eau, et que tout cela, eh bien, à la fin, il peut y avoir des choses qui ne sont pas consommées. Alors ces choses qui ne sont pas consommées, donc, ben oui, c'est la discussion, comment trouver des solutions avec peut-être justement les enfants. C'est pas se restreindre, c'est pas manger plus, c'est manger manger convenablement, mais parfois ne pas gaspiller dans son assiette, parce que c'est souvent effectivement dans l'assiette qu'on peut trouver on va dire du gaspillage, mais derrière c'est aussi être dans cette démarche. Je crois que c'est plus si vous voulez, dans cette semaine, c'est arriver à faire sensibiliser le maximum, effectivement, de personnes et à tous les stades de l'âge pour qu'ensuite il y ait une répercussion aussi dans les familles.
Ouais. En général, c'est les enfants, des fois, c'est les enfants qui ramènent des bons conseils aux parents et qui leur disent attention, comment
en effet. Et pour répondre concrètement, bah, il faudra juste un seau, une balance et puis de la motivation. Plus de détails, ben c'est les Écolibris de Morancé qui sont à l'initiative de ce projet.
Il y a beaucoup, alors il y a énormément d'actions différentes, on ne va pas pouvoir toutes les citer entre le 19 et le 26, mais il y a, je trouve, plusieurs rendez-vous qui sont donnés autour du compostage également. Et j'ai l'impression que ces déchets verts, on en entend de plus en plus parler de comment est-ce qu'ils sont triés. Qu'est-ce qui se passe autour de ces déchets verts?
Alors, on peut en parler vraiment tous les deux parce qu'on est très impliqués, puis concrètement là-dedans. Autour des déchets verts, c'est quand même environ 30% de nos déchets en fait qui vont dans la poubelle et qui pourraient être sortis de ces ordures et qui pourraient être valorisés. Donc le compostage, en fait, nous, ce que l'on veut montrer, c'est que ça peut être facile. On peut s'en emparer. On a un recul maintenant, que ce soit avec ABC21 ou Agir à Val-d'Oin, on a un recul de quelques années
plus d'une dizaine d'années.
Voilà. Et puis ça va être une obligation en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2024, on va avoir une réduction à la source. Tu peux.
Oui, donc à partir effectivement des 2024, donc dans nos poubelles ménages, on devra normalement, si vous voulez, ne plus mettre nos biodéchets ou nos déchets, on va dire, qui sont ceux-là parfois incontournables, parce que si vous voulez, lorsque vous épluchez une salade, on consomme pas tout, ou une pomme, on peut ne pas tout consommer non plus. Donc ça constitue le volume qu'on appelle les biodéchets, et ces produits-là, ne devront plus être mis dans les poubelles, parce que aujourd'hui, ils sont tout simplement incinérés. Ouais. Donc, valorisation, si vous voulez, en termes de chaleur, c'est un peu difficile de le comprendre, puisque ce sont surtout des produits qui contiennent de l'eau. Alors ensuite, ces produits peuvent être effectivement valorisés autrement, et notamment compostés. Alors, il y a ce volet de compostage avec les biodéchets, mais également aussi, on peut considérer qu'il y a d'autres déchets végétaux qui concernent également aussi le compostage, voire également aussi le broyage. Lorsque l'on possède souvent dans nos régions des jardins, on a des arbres, donc ça nécessite, si vous voulez, de la taille, ça nécessite effectivement, il y a des fois de la tonte, du ramassage des feuilles. Alors il y a aujourd'hui aussi toute une technique qu'il faut développer autour de cela. On n'est pas obligé de transporter sur le bord des routes, ou du moins le long des routes, nos pelouses. On peut effectivement réutiliser si vous voulez, tous ces produits verts, les réutiliser dans son espace. Ouais. Et dans son espace, ça peut être broyé, utiliser des broyats dans son jardin, mais utiliser sa pelouse. On a des comportements à faire modifier également, et c'est pour ça qu'il existe différents lieux ou différentes, on va dire, expériences qui sont menées. Sur ma commune, on a mené des expériences par rapport à ça depuis très longtemps, en broyant les végétaux, en n'emmenant pas forcément, si vous voulez, les végétaux auprès des déchetteries, même si c'est le lieu normal où on devrait emmener, mais on peut trouver des solutions sur place.
Ce sera aussi l'occasion de fabriquer d'ailleurs son composteur, ouais. Notamment le 26 novembre, avec pour une somme assez modique hein, quand même, parce que la communauté de communes justement intervient au niveau financier. Et c'est aussi un moyen d'avoir un côté assez festif, hein, j'y reviens. Vous avez dit que c'était pas glamour, c'est vrai. Ben, nous, on propose un apéro compost.
Un apéro compost,
voilà, pour montrer que ça peut être aussi sympathique.
Ouais. Et effectivement, j'ai trouvé le rendez-vous génial. Amenez votre visseuse et on fabrique ensemble un compost et vous rentrez chez vous avec le compost. C'est effectivement cette journée du 26 novembre où là, il se passera beaucoup de choses. Une journée festive tout au long de la journée. Moi, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet que vous avez créé pour l'occasion, c'est ça ?
Oui.
C'est serd-pierre-doré.fr. On retrouve tout le programme des animations qui sont organisées. Et il y aura des choses pour petits et grands tout au long de la journée. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine européenne de réduction des déchets.
Venez nombreux.
Oui.
Pierre Doré. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci à vous.
Merci.
On va se quitter en musique. On écoute David Lafort hein, avec un morceau qui s'appelle La déchetterie. À très bientôt.
Papa poubelle, et toi poubelle, et moi poubelle, 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 et la poubelle à la déchetterie. Tous les jours de la semaine, j'emmène les enfants chéris à la déchetterie. Donne-moi ta main et prends la mienne. La récré est finie, on part à la déchetterie. Je m'apprête, je me fais beau, joli pour la fête de la déchetterie. Tu partiras à la déchetterie, tu partiras à la déchetterie, je partirai à la déchetterie, nous partirons à la déchetterie. Maman poubelle, papa poubelle, et toi poubelle, et moi poubelle, 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 et la poubelle à la déchetterie. La déchetterie, la déchetterie. Et la poubelle à la déchetterie, tout ira à la déchetterie, tous mes chansons à la déchetterie, président de la déchetterie, à la déchetterie, à la déchetterie, tous les pandas à la déchetterie, l'amour à la déchetterie, la guerre à la déchetterie, ma guitare à la déchetterie, le pastis à la déchetterie, chetterie. Puis tout le monde pouvait se donner la main pour partir à la déchetterie, visiter la déchetterie. Visiter la déchetterie, sur la route de la déchetterie, sur la route de la déchetterie, les chatons mignons, mignons de la déchetterie. La déchetterie, la déchetterie.
David Lafort avec un morceau digne de Philippe Catherine, ça s'appelait La déchetterie.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'inquiétiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et oui, on retrouve le coach tout de suite. Bonjour, bonjour, coach.
Salut, gamin.
Bon, comment allez-vous ?
Bah écoute, je vais bien.
En forme ?
Mais à grande forme. J'aime l'automne.
C'est vrai.
Alors, je sais que tout le monde se plaint, qu'il fait gris, qu'il y a du brouillard, que gna gna gna, il fait froid. Mais moi, j'aime cette saison et je trouve que c'est vraiment très agréable de rentrer en automne.
Très bien. Bon, et ben, vous avez bien de la chance d'aimer cette saison, mais je ne partage pas forcément cet avis. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? D'automne ?
Eh bien, aujourd'hui, nous n'allons pas du tout parler d'automne. Nous allons continuer à explorer les expériences de pensée et les fameux dilemmes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un dilemme en particulier, celui du prisonnier.
Ah.
Ce dilemme du prisonnier permet d'interroger les comportements humains face à des choix de coopération ou de trahison. Alors, sans aller dans la trahison, on va dire des comportements individualistes.
D'accord.
Le dilemme est le suivant. Deux prisonniers coupables de crimes sont arrêtés. On les enferme chacun dans une cellule, sans possibilité de communiquer entre eux. Et comme les enquêteurs n'ont pas assez de preuves pour les inculper devant un tribunal, ils imaginent une stratégie. Les policiers font une offre à chacun des prisonniers. Si l'un des prisonniers dénonce l'autre, il est libéré et l'autre écope 10 ans de prison.
D'accord.
Si les deux prisonniers se dénoncent mutuellement, ils écopent chacun de 5 années de prison, soit la moitié de la peine maximale. Si aucun des deux ne dénonce l'autre, alors ils devront purger chacun 6 mois de prison. Et je rappelle que les prisonniers ne peuvent pas communiquer entre eux pour définir une stratégie commune. Alors, qu'ont-ils intérêt à choisir comme stratégie ? Regardons les options des prisonniers sous deux angles différents, deux façons de poser le problème qui se présentent à eux en fonction de l'action choisie par l'autre et puis en fonction de l'action qu'ils ont à choisir eux-mêmes. Intéressons-nous d'abord en fonction de ce que l'autre va décider. Dans le cas où l'autre choisit de me dénoncer, si je me tais moi-même, je prends 10 ans. Mais si je le dénonce aussi, je ne prends que 5 ans. Et dans le cas où l'autre ne me dénonce pas, si je le dénonce, je sors sans prison. Mais si je ne le dénonce pas, je prends seulement 6 mois. Donc, de mon point de vue, j'ai plutôt intérêt que l'autre ne me dénonce pas. Hein, et parce que c'est dans cette configuration que je risque le moins. Maintenant, voyons ça de mon point de vue. Si je le dénonce, que je risque soit 5 ans de prison s'il me dénonce, soit je m'en sors s'il ne parle pas. Et si je ne le dénonce pas, je risque soit 10 ans de prison s'il me dénonce, soit 6 mois s'il ne me dénonce pas. Et on voit que dans les deux cas, bah, j'ai plutôt intérêt de le dénoncer.
Ouais.
Parce qu'on voit que j'ai intérêt à ce que l'autre ne me dénonce pas pour risquer le moins dans les deux cas. Et que moi, j'ai plutôt intérêt à le dénoncer pour m'en sortir. Or, lui, il a le même intérêt que moi, mais en opposé.
Ouais.
On peut se dire que la solution la plus rationnelle est de dénoncer l'autre, car quel que soit son choix, on risque moins que lui. En tout cas, si on se place d'un point de vue individuel, parce qu'en tant que collectif, nous avons intérêt à ne pas parler. C'est là que se trouve le fameux dilemme. En effet, si personne ne jacte, personne ne moufte, la sanction ne sera que de 6 mois, ce qui est un coût beaucoup plus faible que 5 ou 10 ans.
Ouais.
Mais dois-je prendre le risque de la confiance et de la collaboration avec l'autre pour mieux m'en sortir ? Ou vais-je faire le pari que l'autre verra seulement son intérêt personnel ? Ce dilemme se retrouve par exemple dans le monde des affaires et de la concurrence. Un commerçant qui baisse ses prix peut espérer attirer plus de clients et augmenter ainsi son bénéfice. Mais si ses concurrents s'alignent sur lui ou s'ils baissent encore plus leur prix, bah tous peuvent y perdre. Leur intérêt est donc plutôt dans la collaboration et l'entente que dans la concurrence. Alors, le problème posé par ce dilemme, c'est qu'on a plutôt intérêt à amener tout le monde à coopérer, ouais. Mais on a intérêt encore plus grand à ne pas coopérer soi-même à titre individuel.
Ouais.
Et dans la vraie vie, on retrouve ce dilemme dans différents domaines, par exemple dans le sport cycliste. Ouais. Les coureurs en échappée ont intérêt à coopérer pour garder leur avance sur le peloton et à fonctionner en équipe. Mais individuellement, chaque coureur a intérêt de rompre cette collaboration dès que la situation est la plus favorable pour lui. C'est le même bordel dans un bouchon sur l'autoroute. Si tout le monde essaye de gruger, on va rester coincé plus longtemps. Donc on se discipline et on reste dans sa file et on prend son mal en patience. Mais ça fait toujours rager de voir les abrutis qui se pensent plus malins que les autres et qui choisissent de ne pas coopérer et de profiter de la discipline collective pour gagner du temps individuellement. Là encore, c'est une expression du dilemme du prisonnier. Enfin, un troisième domaine, celui de l'écologie face au réchauffement climatique. Eh bien, on retrouve là aussi ce même dilemme. Nous avons collectivement intérêt que la majorité coopère pour réduire notre impact environnemental en changeant nos habitudes et peut-être même devoir réduire notre confort de vie. Mais individuellement, j'ai intérêt à laisser faire les autres et moi continuer à vivre comme un connard. Bon, c'est la même chose aussi en ce qui concerne les politiques de désarmement des différents pays. On voit bien que l'intérêt collectif va à l'encontre de l'intérêt individuel, d'autant plus que l'intérêt collectif demande à pouvoir faire confiance tout en sachant que les autres n'ont pas individuellement intérêt à coopérer. En résumé, sans volonté politique forte, incitative pour la coopération et coercitive contre les comportements individualistes, eh ben nous n'avons pas fini de pédaler dans le sable.
Très bien, effectivement, ça explique un petit peu la situation dans laquelle on est. Merci beaucoup, coach.
Mais de rien, mon gamin.
Et ben, on se dit à très bientôt sur Calade.
À très vite, mes louloutes.
Ensemble sur Calade.
Allez, après avoir parlé de ce dilemme des prisonniers, on va parler de prison dorée. C'est Zoufris Maracas qui vient nous chanter ce morceau.
Comme liberté, moi construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière, il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire sèche dans tes cités. Oh ma musique, toujours raison, musique toujours donner maison, musique toujours donner manger. Et toi musique, qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique, qu'est-ce que t'en fais? Comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans la bière qui taillit, laisser la santé, pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer.
Les Zoufris Maracas sur Calade avec leur fameuse prison dorée.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, l'heure de retrouver notre libraire, c'est Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, de quoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui?
Alors, en ce joli mois de novembre. Non, en fait, pour dans le monde, on va dire, littéraire, libraire, etc., c'est vrai que le mois de novembre coïncide beaucoup avec les prix littéraires.
Eh oui.
Alors, du coup, c'est une spécificité qui est assez française quand même. La notion de rentrée littéraire, qu'on a déjà évoquée à de multiples chroniques. Et puis, effectivement, il y a ce moment un peu particulier entre la fin du mois d'octobre, début novembre, c'est les prix littéraires. Donc, c'est vrai que novembre est un peu perçu comme le mois des prix littéraires. Alors, tout ça peut paraître un petit peu anecdotique, et en même temps, ça ne l'est pas. Alors, ça ne l'est pas parce que pour les auteurs et les éditeurs, c'est des enjeux qui sont très importants, pas seulement financiers, mais c'est des enjeux autour d'une carrière, autour d'une liberté d'écriture aussi, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'écrivains et écrivaines qui puissent vivre de leur plume.
Ouais.
Donc c'est aussi une belle reconnaissance. Moi j'aime bien cet univers. Alors il y a un petit côté, on va pas s'en cacher que les prix littéraires c'est quand même très parisien. Hein, suffit de voir les membres du jury où on se voit, ils se cooptent un peu les uns les autres. On dénonce souvent aussi le jeu des maisons d'édition en disant non c'est pour moi. Voilà, tous ceux qui font des petits caca nerveux au moment de la remise des prix. Mais je trouve que derrière tout ça, c'est quand même de beaux moments et surtout c'est un bel enjeu littéraire. Voilà, c'est ce que je veux garder, même si on est bien conscient qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Alors, les prix littéraires, ça commence toujours avec le Graal.
Ouais.
Le Graal, c'est évidemment le prix Goncourt. Alors le prix Goncourt, c'est tout un ensemble. Hein. Donc c'est 10 membres du jury qui sont parfois là depuis très longtemps, qui représentent effectivement le monde de la littérature, le monde de l'édition. C'est souvent le premier jeudi du mois de novembre, donc c'était jeudi dernier. Ça se passe toujours dans un même restaurant, le restaurant Drouhan dans le deuxième à Paris, depuis le début, hein, donc depuis plus d'un siècle que ça se passe là. Donc c'est un rituel qui est assez marrant à voir. Pour ma part, il se trouve que j'y suis passé jeudi dernier, donc c'est marrant de voir comme ça toute cette frénésie très parisienne. Et puis surtout, nous, on était très contents parce que c'est une Lyonnaise qui a eu le prix Goncourt cette année, c'est Brigitte Giraud, avec son livre « Vivre vite ». Donc c'est une... je trouve que alors son livre « Vivre vite » est un livre de l'intime parce que c'est autour de la disparition de son compagnon il y a un peu plus de 20 ans, décédé dans un accident de voiture. Dans un accident de moto, pardon. Mais je trouve que derrière ce prix Goncourt, c'est le 14e livre de Brigitte. Et évidemment, c'est aussi la reconnaissance. Et je trouve que c'est ça qui est chouette. C'est que, évidemment, quand on a le prix Goncourt, notre vie change un peu, je pense.
Oui.
Parce qu'il y a des sollicitations énormes, parce qu'il y a des ventes énormes, parce qu'il y a une reconnaissance énorme. Et donc je pense que la vie de l'auteur, de l'autrice change un petit peu beaucoup. Mais voilà, c'est toujours de belles reconnaissances. Donc ce prix Goncourt, c'est un peu le Graal du Graal depuis plus d'un siècle. Donc c'est très chouette. Et la petite parenthèse, c'est que nous, on est heureux d'accueillir Brigitte Giraud, donc le prix Goncourt, le 24 novembre. Donc c'est plutôt... c'est très chouette, parce qu'elle est très sympa. Voilà, ça, c'est le Graal. Alors après, il y a les sous-Graals.
Oui, il y en a d'autres.
Alors, dans ce monde des prix, il y en a 4 ou 5. C'est eux qui font un peu, qui donnent le tempo. À commencer par le prix Femina, qui est un prix qui est très intéressant parce que c'est un prix de femmes, c'est-à-dire dans le jury, il n'y a que des femmes. Alors, ça récompense pas que des femmes.
Est-ce que le prix Goncourt, il n'y a que des hommes dans le jury? Je me suis posé la question.
Mais... Alors, non. Il y a François Chandernagor qui est dedans. Il y a Paul Constant, j'ai oublié son nom, celle qui fait Cher Connard, voilà, j'ai oublié, on ne parle que d'elle, comme quoi, et du coup elle en est partie, mais... Alors, si vraiment on regarde, ce n'est pas paritaire, on est bien d'accord.
D'accord.
Est-ce que Didier Decoin est le président? Donc, il doit y avoir 3 femmes, je crois.
Ok.
Voilà. Et président, il n'y a que des femmes. Et du coup, cette année, c'est revenu à une femme qui s'appelle Claudie Hulzinger. Pour Un chien à ma table aux éditions Grasset. J'avais juste oublié de préciser que pour Brigitte Giraud, Vivre vite, c'était aux éditions Flammarion. Et Claudie Hulzinger est une personne qui est vraiment adorable. Alors c'est une octogénaire qui est aussi artiste plasticienne, qui est beaucoup dans le monde de la nature, qui vit d'ailleurs reculé, on va dire, dans sa campagne montagne de l'Est de la France. Elle avait fait un livre qui était aussi très très beau, le précédent, qui s'appelait Les Grands Cerfs, qui a eu le prix décembre. Et Les Grands Cerfs, voilà, c'était pareil, c'était cet univers de la nature où vraiment on essayait d'expliquer l'osmose, pouvait se créer entre un auteur, un écrivain, une écrivaine et la nature. Et là, un chien à table, c'est un chien qui est blessé, qui arrive dans une maison et qui va quelque part transformer, sublimer le quotidien de cette maison, qui va être aussi créé et apporter sa part d'humanité dans cette maison. Donc c'est un texte qui est très beau, qui est touchant, qui est très bien écrit. Je trouve que c'est un très très beau choix pour Claudine Zinger. Je continue ?
Ouais.
Alors, en même temps que le prix Goncourt, dans les 2-3 minutes après, chez Drouan, au même endroit, etc., est remis le prix Renaudot. Donc le prix Renaudot fait partie un petit peu de cette bande de prix assez prestigieux. Et donc là, c'est revenu à Simon Liberati. Simon Liberati, aussi aux éditions Grasset. Et alors lui, il en est quand même à son 12e roman. Il a beaucoup écrit, parce que ce monsieur a une vie et surtout une jeunesse un peu tout feu tout flamme, très parisienne, très dans le monde paillette, voire le monde interlope parisien. Donc il avait écrit un certain nombre de livres, souvent des livres qui ont été parfois décriés, parfois mal perçus, parce que bon, il parlait de jeunes filles, et en particulier sa belle-fille, Eva, qui était ça fait partie de ces deux jeunes filles qui ont 13-14 ans et qui ont déjà des vies d'adultes, des vies sexuelles, des vies de nuit. Et donc là, on revient avec Performance, qui effectivement raconte un petit peu l'histoire d'un écrivain qui a subi un AVC et qui va de nouveau un peu se réinventer. C'est une patte très particulière, Simon Liberati, et j'ai envie de dire, on aime, on n'aime pas. Alors, arrive prochainement les autres, c'est-à-dire le prix Médicis et le prix Interallié, mais c'est dans quelques jours. Je parle quand même d'un autre prix que je trouve très intéressant, qui est le Grand Prix de l'Académie française.
D'accord.
Et le Grand Prix de l'Académie française est revenu ici cette année à quelqu'un qui était aussi fortement pressenti pour le Goncourt. C'est Le Mage du Kremlin. C'est aux éditions Gallimard. Un livre très très intéressant, très bien écrit, on imagine très bien documenté, sur un homme dont le grand-père a été un être un peu brillant, tout feu tout flamme à l'époque des tsars, on est en Russie. Son père a été plutôt un fonctionnaire zélé à l'époque des soviétiques. Et lui, il profite de cette folie des années 90 sous l'ère Eltsine pour faire du fric, pour faire femme, comme beaucoup. Hein. Un homme de la com, et c'est surtout un homme qui, Eltsine allant très mal, on sent que la fin approche, il faut lui trouver un successeur, et on va trouver un fonctionnaire qui bosse au KGB, et qui s'appelle Vladimir Poutine. Et donc, du coup, ça va devenir un peu l'ombre de Poutine. Très, très bien écrit, très bien. Je continue très vite avec un autre prix que j'aime beaucoup, qui est le prix Décembre, justement, qui se veut un prix qui est un peu moins tenu par les grandes maisons d'édition. On les sent un peu plus libres. Je ne sais pas si c'est le cas.
D'accord.
En tout cas, le prix Décembre est toujours très intéressant et il a été remis cette année à Lola Lafont. Donc Lola Lafont, une écrivaine que l'on connaît bien depuis des années, qui avait surtout une reconnaissance avec La Petite Communiste qui ne souriait jamais. C'était autour de Nania Comăneci, hein, la fameuse gymnaste roumaine qui avait au JO complètement fait le plein. Et donc elle avait fait un très beau texte autour de ces jeunes filles. Et là, c'est un texte, c'est pas vraiment un roman, c'est dans la collection Une nuit au musée. Ça s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson ». Et elle a passé une nuit au musée Anne Frank à Amsterdam. Donc pendant une nuit, elle a essayé de comprendre, d'analyser. Et elle fait un très beau portrait d'Anne Frank, et pas forcément autour uniquement du journal d'Anne Frank, mais aussi de tous les autres écrits qu'elle a fait. Parce qu'Anne Frank n'a pas fait que le journal. Mmh. Elle a fait aussi beaucoup de textes, dont beaucoup ont été détruits par son père parce que c'était un peu trop intime. Cette jeune fille parlait un petit peu de ses rêves érotiques, de sa vie intime. Donc ça n'avait pas forcément plu à l'époque. Mais en tout cas, il restait quand même beaucoup de choses. Et elle fait un texte qui est très beau, elle-même remontant à ses origines. Donc très chouette. Et je termine avec le prix du premier roman. Je l'ai déjà, je crois, évoqué. Moi, je suis très attentif au premier roman parce que je trouve que c'est tellement beau, un premier roman, parce qu'on imagine qu'il y a tellement de choses derrière un premier roman, tellement d'espoir. Et là, c'est un premier roman. Alors, toujours aux éditions Grasset, je pense que Grasset a payé très cher cette année pour les jurys. Et ça s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent ». On en a déjà un petit peu parlé. C'est de Maria Larrea, qui est une réalisatrice d'origine basque. Et elle évoque effectivement l'histoire de sa famille, donc une famille basque avec des grands-parents, mais complètement fous, qui vivaient à la fois dans un autre monde, fait de misère, fait de prostitution, fait de violence. Et ses parents, qui sont basques, sont venus s'installer à Paris, où ils ont eu la conciergerie du théâtre de la Michaudière. Et elle raconte tout ça. Alors c'est à la fois très coloré, très enlevé, et en même temps très noir. Donc on passe par une palette d'émotions et de couleurs. C'est assez fabuleux. C'est prix du premier roman, prix Les Incorruptibles aussi. Les Incorruptibles, n'importe quoi. Prix Les Inrocuptibles. Et donc voilà, c'est une belle reconnaissance aussi que le prix du premier roman, parce que tout le monde comprendra bien que on ne peut avoir ce prix du premier roman
qu'une seule fois.
Et
oui.
Voilà. Voilà, et donc on terminera avec Médicis et Interallié dans la fin de la semaine, là, pour un peu clôturer la saison des prix. Alors après, il y a encore quelques prix, un prix aussi qui est toujours très attendu, qui est le prix Goncourt des lycéens.
C'est la fin du mois,
qui est souvent attendu, plus quelques autres, sachant qu'on est bien d'accord, il y a des centaines de prix en France, où il y en a qui sont très bien. Et puis pour les écrivains, c'est important de le dire, il y a souvent une bourse qui va avec, il y a souvent un prix qui se traduit par un chèque. Et c'est quand même très important, parce que pour les auteurs écrivains, ce que je disais en introduction, ils vivent quand même difficilement de leur plume, et c'est aussi un moyen de les soutenir.
Très bien. Merci beaucoup pour cette chronique et pour cette sélection de prix importants.
Avec plaisir.
À tout bientôt.
Belle journée à tous.
Ensemble sur Calade.
Allez, moi aussi, je vous dis à tout bientôt. À demain, en réalité, on se retrouve à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, c'est une émission, évidemment, à retrouver en réécoute sur radio-calade.fr et en rediffusion demain matin à 10h. Très bonne journée. Ciao, ciao.